BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Alors Antoine, à l'ouverture ce matin, on pouvait encore espérer une sixième semaine de hausse d'affilée pour le CAC 40. On sortait déjà de cinq semaines de hausse et depuis le début de la semaine, on faisait pas grand-chose. C'était à peu près stable. Là, avec la séance du jour, on risque de pas avoir de sixième semaine de hausse d'affilée.
Oui, ça risque d'être compliqué. Hein. Effectivement, il faudrait qu'on ait une inversion de tendance assez nette parce que pour l'instant, on est en baisse de 0,77% et on est retombé à 8 366 points. L'Euronext Tech Leaders avec une baisse un peu supérieure, moins 1. Moins 0,9 pour l'Eurostoxx 50 et une baisse vraiment marquée pour le DAX à Francfort, moins 1,3%. Bon, le secteur qui pèse du côté des bourses européennes, c'est principalement le secteur auto. Après, donc, c'est ces nouvelles en provenance de Reuters hein, qui nous parle de 100 000 suppressions de postes possibles chez Volkswagen. On se souvient que du côté de la presse économique, ces derniers temps, on révélait des inquiétudes vraiment structurelles hein, du côté de la direction de Volkswagen autour de son modèle économique face aux tendances du moment. Et c'est vrai que Stellantis, par exemple, perd 2,36% à 5 euros. On a les équipementiers auto qui signent les plus fortes baisses sur le SBF 120. Forvia, moins 5,17, 8,80. Valeo, moins 4,90 à 12,53. En revanche, un des titres qui résiste le mieux de toute la semaine, c'est étonnant, c'est Danone, hein, qui gagne 3,5% encore aujourd'hui à 72,40. Carrefour aussi, vous voyez, l'alimentation, la distribution, plus 1,29% pour Carrefour, on est à 16,47. Puis à noter Engie qui gagne 1% à 27,33. La plus forte hausse, évidemment, on va longuement en parler. Sur le SBF 120, c'est Exel Technologies qui gagne 28% à 119,30€.
Thierry Gauthier nous rejoint, GSD Gestion. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Voilà, Safran confirme donc des discussions exclusives pour Exel, se rapprocher, racheter probablement Exel. Alors Safran précise que rien n'indique, rien ne garantit que les discussions aboutissent. Mais voilà, on est sur des discussions exclusives, Exel gagne 28%, Safran perd 2,5%. Est-ce que vous verriez ce rapprochement comme opportun, Thierry ?
Bah oui, alors c'est toujours un petit peu le cas. Hein. L'acquéreur baisse un petit peu en bourse et puis la cible, bah évidemment, elle monte. Surtout qu'on était sur un cours d'Exel qui avait, on en avait parlé ensemble il y a deux semaines, jour pour jour, avec cette histoire là, de désaccord sur la participation d'ICG qui réclame d'exercer son droit de sortie et qui était en désaccord sur la valorisation avec Exel. Donc Safran pourrait intervenir un peu comme un chevalier blanc sur le dossier. Et comment on voit ce rapprochement, c'est sûr que pour Safran, ça permet, en avalant Exel, d'éliminer un rival direct et puis de consolider sa domination hein, sur tout ce qui est système de navigation, les drones navals, etc. Donc voilà, c'est une acquisition qui viendrait à point pour Exel par rapport à son conflit avec ICG qui aurait pu le contraindre à lever un peu de dette ou à faire une augmentation de capital un peu dilutive. Donc voilà, c'est peut-être une bonne nouvelle pour tout le monde.
Oui. Vous l'aimez bien ce titre Exel encore plus ou vous vous dites à 28, ça pourra que se dégonfler dans les prochains jours ?
À 128, ouais.
Plus
28 euros, ça s'aligne tout juste pour le moment sur. On est même encore un petit peu en dessous, je crois que ça a coûté à 15h32, ça a dû coûter 122 euros. Donc par rapport à l'offre de 128,50, on est encore un peu en deçà. On doit pouvoir aller un petit peu plus haut. Et puis après, est-ce qu'il y aura une prime pour les minoritaires ? C'est pas certain. Mais parce que voilà, il faut que Safran négocie le bloc majoritaire déjà avec qui n'est pas majoritaire, mais c'est le groupe Gorgé qui a 44% du capital. Et puis après, il s'ensuivrait une offre publique obligatoire. On imagine ça. Voilà, est-ce qu'il y aurait prime ou pas ? Mais en tout cas, jusqu'à 128,50, il n'y a presque pas de risque à en acheter.
Antoine.
En tout cas, Exel Technologies, enfin, ils n'ont pas peur d'acheter au plus haut si ça se fait Safran, parce que c'est vrai que ça a pris une sacrée valeur. En 3 ans, ça gagne quasiment 600%. C'est un groupe qui est passé d'un tout petit expérimentateur de technologie de drones sous-marins, vraiment un groupe dont la technologie est archi demandée, surtout avec les problématiques du moment. Donc voilà, peut-être un rachat d'opportunité, mais qui se fera peut-être pas au meilleur prix. En tout cas, tant mieux pour Exel si ça réussit, parce que la prise de valeur aura été démontrée.
Effectivement, plus 28 en ce moment. Alors un de nos auditeurs nous écrit sur le Félix, BFM Bourse, il s'appelle Stéphane, il nous dit la défense, ça va vous plaire ça Antoine, la défense c'est l'ESG des gens de droite. Je trouve ça rigolo. Voilà. On n'est pas dans le climat, c'est pas l'ESG climatique, mais c'est l'ESG souveraine. Voilà. Donc, c'est marrant. Okay. On peut être de gauche et comprendre l'intérêt d'investir dans la défense, mais je trouve que la remarque est rigolote. Quoi. Thierry, vous la trouvez rigolote ou non, non.
Oui, mais c'est bientôt vendredi soir. Hein. C'est souvent l'apéro de savoir si c'est de droite ou de gauche. Hein. Messi, c'est de gauche et Cristiano Ronaldo, c'est de droite. Bon, l'ESG serait de gauche la défense de droite, pourquoi pas. Ça dépend surtout de quel côté du fusil on se trouve. Voilà, si on est du côté des gentils, la défense, c'est ESG compatible. Si on est du côté des méchants, non, pas du tout.
Tiens, des valeurs qui ont battu des... Merci à cet auditeur pour sa remarque rigolote. C'est des valeurs qui ont battu des records donc cette semaine. Il y a BNP Paribas, il y en a plusieurs hein, quand même à Paris. BNP, Accor aussi a touché un plus historique. ST Microelectronics aussi cette semaine. Et Genfit également a battu un record cette semaine. Ça en fait quoi ? Laquelle de ces valeurs sur des plus historiques vous semble avoir pour la suite, hein, Thierry, le plus de potentiel encore ?
Alors, on va procéder peut-être par élimination. Genfit, nous, on trouve ça trop spéculatif. Il n'y a pas encore de profit à horizon 2-3 ans. Ça a déjà été multiplié par 3 en 7 ou 8 mois. Donc, on ne choisirait pas Genfit. ST Microelectronics, on est plutôt, nous, à vendre les sociétés de semi-conducteurs parce que compte tenu du parcours qu'elles ont réalisé et des niveaux de valorisation qu'elles atteignent, eh ben, on est bien content de prendre un peu nos profits sur ces niveaux-là, sur des STM, des Infineon, des ASML. Donc, ben voilà, il en reste deux. Il reste BNP, Paribas et Accor. Alors, qui sont pas donnés non plus, hein, mais voilà, un BNP qui se paye 7 ou 8 fois les profits, qui donne encore 5% de rendement. Même si les bancaires, ça a été les valeurs de 2025 et puis qu'elle est encore à plus 20 depuis le début de l'année, il y a encore peut-être un petit peu de choses à faire dessus. Et puis, Accor avec, la fin des conflits dans le monde, peut-être qu'il y a encore un peu d'upside à venir sur le titre, même s'il a déjà bien remonté.
Thierry Gauthier avec nous, merci beaucoup Thierry pour GSD Gestion et Raphaël Genin nous rejoint également, analyste financier pour Roland. Bonjour Raphaël, pour proposer à nos auditeurs et téléspectateurs une idée de valeur en plus. Raphaël, êtes-vous là?
Exactement, vous m'entendez?
Oui, ça y est, on vous entend bien.
Alors, Raphaël, je vais vous parler aujourd'hui.
Oui, vous n'avez que 2 minutes 30, hein, je vous préviens, le chrono va commencer.
Allez, c'est parti.
C'est parti. De quelle valeur voulez-vous nous parler? Quelle est votre conviction du jour, Raphaël?
Alors, je viens vous parler aujourd'hui de Bilindi, donc c'est une small cap française active dans les études de marché en ligne. Alors, son métier est simple, Bilindi met à disposition de ses clients qui sont des consommateurs qualifiés, qui répondent à des enquêtes, alors principalement pour les instituts d'études, mais aussi pour des agences, des cabinets de conseil ou directement des entreprises. En clair, le groupe fournit une matière première essentielle aux études consommateurs. Donc, si on doit retenir 3 points sur le dossier, d'abord, Bilindi détient un actif rare. Le groupe dispose de plus de 4 millions de panélistes propriétaires dans 44 pays. Un tel panel ne se construit pas rapidement. Il faut investir, recruter les répondants, les fidéliser et pouvoir les mobiliser dans plusieurs géographies. Et ça, ça crée une véritable barrière à l'entrée dans un marché où les gros acteurs mondiaux restent peu nombreux. Ensuite, le deuxième point, c'est que Bilindi a changé d'échelle avec l'acquisition de NetQuest en 2025, donc pour 54 millions d'euros, une acquisition structurante. Et cette opération, elle a renforcé le groupe en Espagne, mais surtout en Amérique latine, avec une présence dans 19 pays de la région. Et elle a aussi permis à Bilindi de s'imposer parmi les acteurs mondiaux de référence et de franchir un cap sur les fondamentaux. Donc en 2025, Bilindi, c'est 92 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 20 millions d'euros d'EBITDA. Donc ça fait une marge quand même de 22%. Donc la société est très rentable. Et cette taille donne plus de crédibilité au plan stratégique 2026-2030 qui a été dévoilé récemment en avril. À travers lequel le groupe vise un doublement de taille, donc il vise 175 à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et une marge d'EBITDA supérieure à 25% pour 2030.
On observe néanmoins que la croissance organique est assez faible hein, pour ce groupe Bilindi sur les derniers exercices. Qu'est-ce qui, d'après vous, peut faire réaccélérer le dossier, lui permettre à Bilindi d'atteindre les objectifs de son plan stratégique?
Alors en effet, oui, la croissance est assez faible sur l'organique ces dernières années, mais sur les catalyseurs, alors au-delà de la croissance externe qui restera un levier, le vrai sujet maintenant, c'est l'IA. Bilindi ne veut plus seulement fournir des répondants, l'idée c'est de remonter la chaîne de valeur des études de marché, c'est-à-dire aider les clients à concevoir une étude, à la lancer, puis à en analyser les résultats de façon beaucoup plus automatisée. Et ça c'est le rôle de Barry, qui est son moteur d'IA propriétaire, et de la Bilindi Platform qui sont lancés et qui vont constituer des piliers pour la croissance du groupe. Et c'est intéressant parce que ça peut rendre le modèle beaucoup plus scalable, tout en renforçant la valeur des données humaines héritées. Et enfin, pour terminer, la valorisation nous paraît attractive. Le titre se traite autour d'1,1 fois le chiffre d'affaires 2026, alors que Bilindi a payé NetQuest 1,9 fois le chiffre d'affaires. Donc, chez Roland, on a un achat à 26 euros, ça fait 60% d'upside.
Bilindi, voilà, bravo, vous venez de battre le chrono là, Raphaël. Hein.
Oui, merci beaucoup.
Vous pouvez partir fier en week-end, effectivement. Bon, merci beaucoup surtout pour l'argumentaire. La qualité, à chaque fois, les experts de Roland à nos côtés. Raphaël Génin, le CAC 40 est en baisse cet après-midi, moins 0,69%. On évoquait Bumble qui pourrait bien, le site de rencontre, se faire racheter, figurez-vous. L'avenir des sites de rencontre est en train, enfin en tout cas, leurs perspectives sont en train d'évoluer fortement. Ce marché-là aussi est fortement disrupté. C'était dans USA Today, l'analyse de John Plassard à trouver en podcast et replay.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Et l'IA va-t-elle, elle, amplifier l'inflation ? Nadia Garbi est avec nous, on va en parler ensemble pour piquer. Bonjour Nadia. Bonjour. Oui, ça tombe mal. Alors que le pétrole recule, on voit plusieurs acteurs majeurs de la tech américaine annoncer des hausses de tarifs, et parfois de 20% sur les produits d'Apple. Microsoft aussi augmente pour la troisième fois le prix de sa Xbox. Et tout ça est lié d'une façon plus ou moins directe à l'intelligence artificielle, parce que Apple comme Microsoft doivent répercuter la hausse des coûts des cartes mémoire. Ce qui fait le succès de Micron, en gros, pousse Apple ou Microsoft et d'autres à relever leurs tarifs, parce que ce qui fait le succès de Micron, la hausse des prix des cartes mémoire, la hausse des marges, et bien les autres, les hyperscalers, doivent le répercuter à leurs clients. C'est ce qu'on commence à observer. Est-ce que l'IA va entraîner un surcroît d'inflation, d'après vous, Nadia ?
Oui, en tout cas, à court terme, c'est ce qu'on voit dans les données. On voit vraiment que c'est une source d'inflation. On le voit, par exemple, dans cette composante des prix des accessoires de PC qui, en mai, a atteint le niveau de 14,5% sur un an. Et ce record sera vraisemblablement battu par tout ce que vous avez mentionné. Alors, c'est vrai que le pétrole baisse, c'est une bonne nouvelle. Cela va conduire à une baisse de l'inflation globale, mais les indicateurs de l'inflation sous-jacente, eux, restent élevés, et notamment cette techflation qui reste un sujet très important.
Oui, et il y a le prix de l'électricité aussi. On voit aux États-Unis, notamment dans certains coins, le prix de l'électricité a augmenté de 50-60% dans les zones proches, notamment des data centers en l'occurrence, Nadia.
Oui, tout à fait. Et ça va rester une source de préoccupation pour la Réserve fédérale, ce niveau élevé de l'inflation sous-jacente.
Mais est-ce qu'on peut se rassurer en se disant oui, ok, il y a des hausses de coûts, des hausses de prix, mais parallèlement une productivité amenée à s'améliorer du fait aussi de l'intelligence artificielle, et donc le regain de productivité compenserait ces hausses de coûts dont on est en train de parler?
Oui, alors c'est un peu l'argument de Kevin Warsh à la Réserve fédérale, mais en tout cas à court terme, il ne devrait pas utiliser cet argument. Ce sera peut-être une des conclusions de d'une des task force, mais en tout cas, on le sait, hein, la plupart des papiers suggèrent qu'à court terme, l'AI c'est inflationniste et à moyen terme, c'est plutôt déflationniste. Donc, il faudra attendre un peu pour voir les effets.
Bon, inflation, intelligence artificielle, est-ce qu'il y a une autre grande dynamique là qui vous paraît très urgente à regarder ces prochains mois ?
Alors, on va bien sûr regarder tous les indicateurs liés à l'inflation, la dynamique du marché du travail aux États-Unis avec des données importantes la semaine prochaine, hein, on aura la création d'emplois. Donc, je dirais qu'il faut bien sûr surveiller la résilience de l'économie américaine et à quel point on a aussi les salaires aussi est un indicateur important à regarder. Pour le moment, on voit pas vraiment de source d'inflation liée aux salaires, mais voilà, je dirais que à côté des données d'inflation, on va aussi surveiller de manière très importante les données liées au marché du travail américain.
Merci beaucoup Nadia Garbi avec nous pour piqueter. Wall Street est en baisse légère, rien de méchant, mais enfin on les enchaîne, hein. Le S&P 500 recule de 0,1%.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et on a une forte baisse assez généralisée, c'était en début de semaine notamment, des marchés. Et qui, cette baisse, a aussi emporté certaines valeurs renouvelables. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer du début de semaine qu'a vécu le secteur des énergies renouvelables entraîné par la baisse des marchés, alors que quand même, les perspectives sont triomphales pour les énergies renouvelables. Boris Maltac nous rejoint pour en parler, pour Montpensier Arbevel. Bonjour Boris, bienvenue.
Bonjour Guillaume.
Le marché a-t-il envoyé en début de semaine une alerte sur les renouvelables ?
Oui, alors effectivement, séance très chahutée. Alors il y a eu la thématique de l'intelligence artificielle qui a été mise à mal avec ce questionnement éternel des dépenses en infrastructure. Il y a eu aussi des PMI décevants en Europe, il faut le rappeler, et puis un discours plus dur de la Fed. Et là, il y a vraiment deux symptômes, deux impacts différents, mais qui montrent vraiment les orientations de la dynamique. L'Europe d'un côté qui reste stable sur la période, hein, les renouvelables européens sont stables mardi. Et après, il y a bien sûr les États-Unis qui, eux, ont été impactés par leur corrélation prononcée à l'intelligence artificielle et au secteur de la technologie de manière plus générale. Donc, est-ce inquiétant pour autant ? Je pense que non. Alors déjà, comme vous le mentionnez, hein, les trackers, les ETF éoliens, solaires et même les indices généralistes sont en hausse de plus de 25 à 30%. Mmh. Et parallèlement, surtout, la thématique est vraiment au cœur des enjeux actuels.
Oui, mais on a un regain des tensions géopolitiques. L'Ukraine qui a fait monter les cours du gaz il y a 4 ans, maintenant le temps passe. L'Iran, bien sûr, avec les cours du pétrole, même si ça s'est assagi, les cours ont rechuté depuis 2-3 semaines. Mais est-ce que tout cela ne réveille pas à nouveau les vieux démons, à savoir des énergies fossiles qui restent quand même relativement souvent encore compétitives?
Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont changé en 4 ans. C'est vrai qu'on se rappelle tous de ce scénario de 2022 avec l'entrée de la Russie en Ukraine qui a amené une hausse des taux et puis surtout l'annulation de beaucoup d'initiatives climatiques. Il faut rappeler quand même que l'Allemagne a rallumé ses centrales à gaz et centrales à charbon. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, on est rentré dans le même schéma, à savoir le conflit iranien commence et les taux montent. Finalement, la thématique ne bouge pas. En fait, il y a deux éléments, c'est que déjà, les investissements verts ont payé, parce qu'il y en a eu. Et parallèlement à ça, le narratif est totalement différent. La perception de la thématique est vue comme une solution d'indépendance énergétique, de souveraineté.
Oui, et vous parlez de résilience. Les énergies renouvelables apportent de la résilience. Là-dessus, vous avez un exemple européen à nous apporter pour à convaincre ceux qui ne seraient pas encore complètement convaincus de la pérennité de la... Alors, pérennité de la thématique, bien sûr, pour un investisseur, on comprend que si, mais voilà, la pérennité même du modèle. Il y a eu une énorme panne électrique il y a quelques années en Espagne, par exemple, et on a incriminé là-dessus le solaire. Ça a créé des déséquilibres. Vous avez un exemple inverse à nous apporter, de résilience cette fois, lui aussi, en provenance d'Espagne.
Oui, effectivement, l'Espagne, c'est le pays qui a un mix le plus orienté vers les renouvelables. Et c'est le pays où, de la même façon qu'en 2022, les prix de l'électricité ont explosé, et bien là, ils sont restés totalement stables au moment de l'explosion du prix du baril et du prix du gaz.
Et puis, il ne faut pas oublier qu'après examen des choses du côté de l'Espagne, c'était plus un problème de gestion du flux de cette énergie solaire très très abondante que de l'efficacité de l'énergie solaire qui naturellement était très très fort à ce niveau-là. Si on revient du côté des États-Unis, on voit que Donald Trump est sans doute le président le plus hostile aux énergies renouvelables qui soit. Maintenant, il n'est pas fou non plus. Il constate que ça marche bien le solaire du côté du Texas. Il constate qu'il y a certaines choses qui vont bien. C'est juste les éoliennes qui lui mettent des boutons. Mais est-ce qu'il y a aussi un cadre réglementaire qui gêne le développement à grande échelle du côté des États-Unis?
Oui, alors le cadre réglementaire, il a été partiellement défini mi-2025. C'est ce qui a d'ailleurs entraîné un rebond de la thématique, parce que en fait, la thématique, les acteurs avaient enfin une visibilité, peut-être moindre parce que les crédits d'impôt allaient être arrêtés au fur et à mesure des années, mais surtout, il y a la réalité du terrain, il y a la demande qui est en pleine explosion. Et j'en veux pour preuve les data centers. Donc, les data centers, c'est la moitié de la hausse de la demande électrique dans les prochaines années. Et là, il y a plein de sujets. Donc, remettons un peu dans le contexte. Ça sera à peu près 10% de la demande en 2030, entre 10 et 17%. Il faut savoir qu'un data center, les plus énergivores, sont maintenant consomment l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Et donc, ce 10 à 17%.
Wow.
Prenons une hypothèse conservatrice, 10%, c'est la consommation de la France.
Oui, c'est évident. Mais il y a quelque chose d'encourageant finalement sur ce secteur, parce qu'on a beau avoir une administration qui est hostile ouvertement aux éoliennes et aux considérations en termes d'énergie verte, qui en plus encourage à qui mieux les nouveaux forages pétroliers, le gaz et les énergies réputées polluantes. Mais bon, nécessité fait loi, les énergies renouvelables continuent à progresser, même avec ce cadre qui est quand même pas génial.
Oui, absolument. Devant cette demande, il y a pas 40 solutions. Il faut de l'énergie, d'électricité, tout de suite, et pas cher. Et en fait, avec tous ces investissements qui ont été menés, notamment pendant l'ère Biden, en fait, le solaire est maintenant compétitif. D'autant plus que maintenant, il est complété avec le stockage. Donc, je le rappelle, le prix a été divisé par 7 sur les dernières années. Et donc maintenant, on vient vraiment sur les plates-bandes du pétrole et du gaz, on vient pallier à l'intermittence qu'on avait avant sur le solaire. Et donc là, l'offre n'arrive pas à suivre la demande. Il faut quand même rappeler qu'aux États-Unis, la moitié des États, d'ici 2030, va faire face à un risque de pénurie d'électricité. Et donc, ça, c'est une aubaine pour toute la thématique. Les gestionnaires de réseau, le stockage, le solaire.
Oui, oui, et effectivement, le solaire, l'éolien comme instrument de lutte contre l'inflation, parce que sinon, le prix d'électricité va encore plus progresser si on ne produit pas davantage d'électricité. Au-delà de l'Europe et des États-Unis dont on vient de parler, la thématique avance-t-elle au même rythme, l'air puissant, rythme accéléré, dans le reste du monde ou c'est plus lent ?
Alors c'est une année assez marquante, 2025. Déjà, en Chine, la production d'électricité à partir d'énergie fossile a reculé. C'est une première. Et également, on a passé un vrai cap dans le sens où la production d'énergie, d'électricité bas carbone est supérieure à la production d'électricité sur le combustible fossile. Et le solaire, lui, à lui seul, va couvrir trois quarts de la hausse de la demande. Et retenez un chiffre, c'est 2032. En 2032, le solaire va être la première source d'électricité de production. Et si on prend un peu de recul, en 30 ans, le solaire est passé d'un état quasiment négligeable à un statut de leader. Et ça comparé à 80 ans pour le pétrole avec l'arrivée de l'automobile, 70 pour le gaz et toute la révolution industrielle.
Et donc, boursièrement parlant, est-ce que tout ça est dans les cours? Parce que vous disiez, il y a quand même un beau parcours là, depuis le début de l'année sur les énergies renouvelables. Est-ce que ce potentiel va encore progresser? Et si oui ou sinon, peu importe, sur quels acteurs vous le voyez le plus à même de s'accroître, le potentiel de hausse?
Oui, alors on a trois moteurs structurels qui sont vraiment imbriqués les uns dans les autres. On a ce super cycle de la demande d'électricité. On a l'intelligence artificielle qui vient booster d'autant plus cette demande. Et derrière, on a vraiment cet enjeu de souveraineté et d'indépendance énergétique. Mmh. Donc revenons aux valorisations. Effectivement, on a vu une expansion de multiples, mais sur des niveaux assez bas. On se retrouve à peu près au par avec les indices mondiaux. En revanche, on a des croissances bénéficiaires qui sont 50% supérieures à ce qu'on peut avoir sur l'indice Stoxx 1800, par exemple. Il faut garder en tête qu'en Europe, la croissance bénéficiaire à venir est au plus haut depuis 20 ans sur les renouvelables. Donc maintenant, que jouer? On reprend un peu toutes les thématiques et on déroule la liste. Donc on a bien sûr le solaire américain, on a la fabrication de batteries, et notamment en Chine, et puis on a aussi bien sûr toute la production d'énergie renouvelable, et là, notamment en Europe.
Voilà, c'est quelques piliers des énergies renouvelables dans lesquels vous croyez toujours dur comme fer. Boris Maltak et ses experts chez Montpensier Bevel. Merci beaucoup, Boris. Le CAC 40 est en baisse de 0,7%. C'est mal parti pour une sixième semaine de hausse d'affilée pour le CAC 40. À l'ouverture, on espérait encore, mais là, à moins 0,7, c'est plus compliqué. Il reste encore une heure de cotation qu'on va vivre ensemble. Et dans un instant, on entrera dans le cœur du réacteur tech. On vous emmènera jusqu'aux confins de la tech. On vous fera découvrir un maximum de valeurs tech, pas encore forcément très connues, mais qui, elles aussi, pourrait vous surprendre en termes de potentiel. C'est à suivre. Nos experts vont se mouiller dans deux minutes. À tout de suite.
BFM Bourse, Tech Stocks. Guillaume Sommerer.
Tout un stock d'actions pour investir dans la tech. Pendant 27 minutes, on vous apportera des idées de pépites et on tentera de faire de vous des insiders. The GOAT de la tech, cette semaine, ils sont là. Alice Labou, fondatrice d'Alice Labou Conseil. Bonjour Alice. Et Valentin François, gérant action thématique internationale Montpensier Bevel. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver chaque vendredi à cette heure-ci, BFM Bourse. Oui, prendre l'avance sur la tech boursière grâce à votre expertise à l'un et à l'autre. Dans un instant, vous nous livrerez vos pépites méconnues, mais d'abord dans l'actu. Dans l'actu, ça c'est pour ceux qui ont raté la semaine. Qu'est-ce qui vous a l'un et l'autre le plus bluffé dans l'actu cette semaine, Alice?
Eh bien moi c'est OpenAI, donc celui qui fait ChatGPT, qui déclare la guerre à Nvidia sans le dire véritablement, puisque OpenAI a commencé à créer ses propres puces avec l'aide de Broadcom, dont on parlera probablement. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'OpenAI cherche maintenant à maîtriser toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire pas seulement à créer des modèles les plus avancés, les plus puissants, mais aussi à se verticaliser dans le business. Et d'ailleurs, c'est un mouvement qui est intéressant à observer puisque ce ne sont pas les seuls. On sait que Amazon s'y met, que Apple s'y met à créer ses propres puces maison, alors pas tout seul avec de l'aide, mais c'est intéressant. Voilà.
Eh oui, OpenAI vient concurrencer à sa mesure un Nvidia. Mm-hmm. Voilà. Eh oui.
On entame le deuxième set, on va dire.
Pour essayer de maîtriser toute la chaîne de valeur, et c'est vrai que de plus en plus d'acteurs de la tech sont en train de tenter aussi cette stratégie OpenAI dont on reparlera dans un instant, parce que sur l'introduction en bourse, il y a une ou deux incertitudes qui commencent à poindre. Enfin, sur le calendrier, en tout cas, de l'introduction. On en parlera dans un instant. Vous, Valentin, cette semaine, qu'est-ce qui, dans la tech, vous a le plus, alors je sais pas, ébloui, inquiet, en tout cas, bluffé?
Cette semaine, il y a eu deux news, en fait, qui, finalement, on peut les rapprocher. Donc, Mike Run et sa publication fantastique, évidemment, le marché a salué. Et puis, ce mot du PDG qui explique que, finalement, le problème sur, d'approvisionnement sur la mémoire, c'est pas prêt de se résorber. Donc, au moins d'ici 2028, voire 2029. Donc ça, c'est le premier point.
Et ils pensent que la demande pour les cartes mémoire va rester quasiment aussi haute jusqu'en 2029 potentiellement.
Oui, et en tout cas, l'offre ne suivra toujours pas la demande, ouais. Surtout. Donc c'est,
d'accord.
C'est surtout ça.
Pour ceux qui se demandent quand ça va se retourner, comment ces valeurs-là vont évoluer, bah, ça va peut-être se retourner, mais peut-être plus, dans plus longtemps qu'on l'imaginait. Ouais.
Effectivement. Et alors du coup, le problème de la mémoire quand même aujourd'hui, c'était peut-être quelque chose de pas très concret pour les particuliers. C'est devenu un vrai problème hier avec Apple qui explique augmenter les prix. Alors, on comprend qu'ils ont tardé à monter les prix. Ils ont tout fait pour que le consommateur n'en souffre pas. Mais là, ça y est, première hausse de prix. Alors, ce n'est pas les premiers à le faire. Hein. On a vu Xbox aussi le faire. Mais on va dire que le AI inflation est bien réel pour les particuliers et le sera probablement aussi pour les entreprises.
C'est-à-dire qu'Apple relève les prix de quasiment tout, ses Macs, ses iPads, parfois des hausses de prix de 20%. On
dit. Exactement, ah, mais... c'est énorme.
En expliquant, alors c'est le porte-parole qui le dit noir sur blanc, qu'Apple a jusqu'ici protégé ses clients de la hausse des prix des cartes mémoire, mais désormais on atteint un point critique qui ne permet plus de les protéger.
La marge.
Ben oui, tout simplement. Ces hausses sont inévitables, a dit Tim Cook dans le Wall Street Journal. Est-ce que l'IA, Alice, effectivement, à travers les hausses de prix annoncées par Apple, la troisième hausse de prix de la Xbox aussi annoncée par Microsoft, quand même, du fait aussi des coûts des cartes mémoire, est-ce que tout ça montre que l'IA, qu'on espérait déflationniste, finalement, pourrait au contraire être inflationniste?
En fait, ça dépend sur quoi. C'est-à-dire que oui, elle va être inflationniste pour ceux qui ont besoin de consommer des cartes mémoire et peut-être des puces ou des GPU, mais la réalité pour moi, c'est qu'en fait, l'IA, elle va être aussi plus chère pour nous, les consommateurs, au fur et à mesure. On sait très bien que bientôt, on paiera l'IA à notre consommation énergétique en partie et à notre consommation de briques d'utilisation. Et donc, oui, bientôt, il va y avoir probablement des changements, parce que je rappelle quand même que toutes ces sociétés, en fait, fournissent à des prix très raisonnables aujourd'hui des solutions qui nous permettent à nous de gagner en gains de productivité, à la fois nous, personnes physiques, mais aussi aux entreprises. Et probablement que ça va évoluer. Donc, à suivre.
Et c'est un débat qui monte, effectivement, parce que la productivité attendue de l'intelligence artificielle pourrait compenser la hausse des prix d'un certain nombre de produits liés, effectivement, à la rareté des ressources. Quoi. L'IA est tellement gourmande en ressources que voilà, les prix vont augmenter, mais la productivité pourrait compenser cela, éventuellement, Valentin, et l'IA rester l'ami de l'homme.
c'est un vaste débat. Mais effectivement, comme le dit Alice, aujourd'hui, on vit une IA qui est accessible... On le voit quand on fonctionne directement avec l'API, hein, donc quand on fait des requêtes directement sur les serveurs d'Anthropic sans passer par l'abonnement, c'est plus tout à fait le même prix. Hein. On a vu des entreprises dire qu'ils avaient consommé le budget informatique en un trimestre.
Vous avez vu, je crois que c'est une entreprise, 20 millions d'euros, ils ont eu la surprise en fin de mois ou quelque chose comme ça, de découvrir qu'en fait les collaborateurs ont utilisé tellement de crédit cloud sans particulièrement prévenir qu'en fait ils se sont retrouvés, il faudrait que je vous retrouve le nom de l'entreprise, mais j'ai vu ça récemment. Ça fait des surprises parfois pour le directeur financier.
Facture de 20 millions d'euros.
Oui, je ne sais plus, mais c'était énorme comme chiffre, énorme.
Le PDG de Burr l'a dit, hein, en un trimestre, le budget annuel a été consommé juste avec l'utilisation de l'IA. Hein, donc.
Est-ce que ce n'est pas la meilleure pub qui soit pour les modèles, pourquoi pas les modèles chinois, qui coûtent un peu moins cher, alors un peu moins puissants, mais moins cher. Les entreprises, elles vont arbitrer. Est-ce qu'elles ont besoin de la toute puissance de l'IA, juste un peu de puissance, au prix le plus proportionné, quoi. Est-ce que de ce point de vue, on est certain que le modèle américain de l'IA, c'est-à-dire surpuissant mais très coûteux, gagnera la bataille? La bataille des parts de marché, notamment.
Je dirais pas forcément, effectivement. D'autant plus quand on voit Trump, en tout cas son gouvernement, dire à Anthropic, finalement, le tout dernier modèle si puissant, Fable 5, vous n'y avez plus accès en tant qu'étranger. Donc, il y a une histoire de souveraineté. Mm-hmm. Et on a vu des entreprises européennes partir de Cloud, d'Anthropic, pour aller vers des IA chinoises comme DeepSeek. Ou Gwen,
Oui, et même là, je lisais que Trump a l'air de demander à ChatGPT de réserver sa prochaine, je ne sais pas si vous avez vu, sa prochaine version beaucoup plus efficace aux Américains et même à quelques membres agréés par le gouvernement, enfin personnes agréées par le gouvernement américain. Donc là, on est parti dans les sujets de souveraineté majeurs. Oui. Et c'est intéressant de se poser la question de l'Europe là-dedans. Moi, je voyais Arthur Mensch, donc fondateur, comme on le sait, de Mistral, donc une très belle intelligence artificielle française. Il était auditionné à l'Assemblée nationale, vous avez vu ? Mm-hmm. Est-ce que vous savez combien il y avait de députés qui étaient présents ?
Oh, sûrement très peu, si
à l'audition.
Alors que c'est un sujet stratégique.
Vous voulez un chiffre ?
Attendez, on va essayer de jouer quand même. Combien de députés il devait y avoir une...
Il a été auditionné par l'Assemblée nationale, donc c'est quand même important que les députés soient présents.
Sur 500 députés, après c'était en commission, mais je dirais une dizaine de députés.
Ok, c'est moins, c'est deux.
Bon, 102.
Deux. C'est juste pour vous donner une idée, si vous voulez, de la prise en main politique dans laquelle on est, de ce sujet qui est quand même clairement stratégique.
C'est quand même terrible, effectivement. Bon, et au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on achète ? Qu'est-ce qu'on vend, là, Alice ? Quels sont vos arbitrages dans ce secteur de la tech en ce moment ?
Alors moi, j'avais envie de dire, je ne vends pas Nvidia, je le dis, parce que je vois maintenant plein de gens qui disent « Oula, Nvidia, j'y mets pas le doigt de pied, parce que soit j'ai loupé la hausse, soit j'ai déjà bien pris et tout ça. » Moi, je pense que malgré la concurrence et éventuellement effectivement, le développement dont on va parler aussi, des puces maison faites par les grands hyperscalers, je pense que, en fait, Nvidia va garder son leadership pendant très très longtemps. Donc, je rappelle, Nvidia, c'est ceux qui fabriquent les puces les plus avancées dédiées à l'intelligence artificielle. Ils sont absolument incontournables, ce qui fait évidemment le malheur des Chinois qui, eux, n'y ont pas accès. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils développent d'autres solutions moins technologiques, mais qui parfois fonctionnent aussi. Donc, je reste acheteuse sur Nvidia. Voilà, même là, un peu moins de $200. Je reste acheteuse. Je le dis officiellement devant la caméra. Et ensuite, je suis acheteuse fortement sur Broadcom. On en a déjà parlé plein de fois. Mais Broadcom, en fait, est en train d'aider aujourd'hui les hyperscalers à créer leur propre moteur, on va dire, donc leur propre puce. Et je pense que c'est que le début, donc je mise fortement sur ce titre-là.
Et vous disiez, OpenAI lance sa première puce d'IA avec Broadcom en l'occurrence.
Exactement.
Donc, vous aimez bien ce titre Broadcom. Antoine.
Mais Nvidia, c'est vrai qu'en plus, il y a une plus-value qui est rarement exploitée, rarement expliquée en tant que telle, c'est que c'est un architecte. C'est comme ARM Holdings, c'est-à-dire qu'ils conçoivent des systèmes entiers. Et il y a cette capacité à dégager des revenus récurrents. Alors certes, ils les fabriquent, mais via des sous-traitants à Taïwan, hein, notamment leurs cartes graphiques, les RTX, tout ce qui est dernière génération pour alimenter l'IA. Mais c'est avant tout un architecte. On a un cerveau qui fabrique des semi-conducteurs et c'est peut-être une plus-value qu'il faut redécouvrir, même si évidemment la valorisation est très très chère.
En tout cas, sur repli, si jamais il y a un petit mouvement de baisse, d'inquiétude, comme on avait eu il y a 2 ans en août, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait baissé assez fortement et était passé sous les $100. Si jamais il y a une opportunité, moi j'invite les gens à ne pas hésiter à la saisir.
Et c'est intéressant. On va continuer, on va aller encore plus loin. Vous nous direz aussi quoi suivre la semaine prochaine dans la tech. Mais d'abord, ce dont on vient de parler, presque encore un peu trop mainstream. Tech Talk, c'est aussi le moment où on échange dans le secret de la tech. Vous nous livrez vos indiscrets. Pouvez-vous, Alice Valentin, pouvez-vous faire de nous des insiders, s'il vous plaît ? Livrez-nous des secrets. Sous les radars, que tout le monde a une annonce dans la tech passée peut-être inaperçue, ou une rencontre que vous avez eue, une discussion confidentielle que vous n'avez pas le droit de partager sauf auprès de nos auditeurs et téléspectateurs. Voilà. Faites de nous des insiders. Valentin.
Un chiffre intéressant qui vient d'une étude faite par Semi Analysis. Donc c'est aujourd'hui des anciens analystes qui ont créé une newsletter pour les semi-conducteurs, qui est assez suivie du coup dans le monde de la finance. Et ils expliquent qu'aux États-Unis, on arrive à installer à peu près 15 gigawatts d'électricité supplémentaire chaque année. Ça, c'est un premier point. Mais en face, on construit pour l'équivalent d'à peu près 21 gigawatts de data centers. C'est-à-dire que ces data centers consomment 21 gigawatts chaque année. Et donc, on comprend qu'à la fin, il y a cet écart qui est à combler et qui se creuse d'année après année. Et donc, la question qui est posée dans cette newsletter, c'est de dire comment on fait pour combler le gap ? Comment on fait pour... c'est pas le tout d'aller acheter des puces chez Nvidia, il faut les mettre dans des data centers, mais surtout il faut les brancher électriquement, on va dire, enfin, en tout cas les raccorder au réseau. Et donc il y a quelque chose d'assez intéressant qui est soulevé, c'est que d'ici 2028, la moitié du réseau électrique sera privée, c'est-à-dire qu'on parlera de Amazon, de Meta, de Microsoft, qui deviennent producteurs d'électricité, d'énergie. Et pour un dernier chiffre qui est totalement fou, moi je ne l'avais pas du tout en tête, les turbines à gaz et les transformateurs électriques qui sont clés dans l'électrification des data centers aujourd'hui. Avant, on était livré en 18 mois. Maintenant, c'est plutôt 3-4 ans. Donc, vous avez construit votre data center, vous avez votre contrat avec votre fournisseur d'énergie. Et si vous n'avez pas le transformateur, ben vous n'avez pas d'électricité dans votre data center.
C'est des sacs Hermès, en fait.
Non, mais c'est fou.
C'est-à-dire un produit de luxe.
Ouais, exactement. Et ça pose un problème aussi d'obsolescence du data center, parce que les technologies vont tellement vite sur la data center qu'aujourd'hui, vous fabriquez votre data center, et puis il n'y a pas l'électricité suffisante pour vous permettre de le faire tourner à plein, ou elle est trop chère, etc. Vous ne rentabilisez pas, donc vous n'allez pas à fond sur l'usage de votre data center. Et vous gaspillez pas mal d'argent, parce qu'il vous a coûté cher. Et en plus, le rythme d'obsolescence, le nombre d'années qu'il faut pour que très vite ce data center soit dépassé par rapport au nouveau, est en train d'accélérer. Donc, il faut être hyper performant dans l'usage. Et ce que vous nous dites, c'est que la rareté de l'énergie risque de rendre cette hyper performance dans l'usage beaucoup plus compliquée.
Ah, complètement. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres. Si on regarde un peu dans les petites notes, des rapports annuels ou des rapports trimestriels des hyperscalers, vous avez une ligne où il y a écrit actifs en cours de construction. Et là, on met les data centers et les puces commandées chez Nvidia, notamment. Et là, il y en a pour 80 milliards. Donc, en fait, 80 milliards de dollars sur l'ensemble des hyperscalers. Donc, en fait, les puces Nvidia, elles ne sont pas toutes installées directement quand elles sont livrées par manque de data centers.
Wow. Là, on est des insiders et c'est super intéressant pour mesurer les enjeux, les rapports de force, la faisabilité des projets aussi. Alice, faites de nous aussi des insiders. Quel chiffre, quelle data vous a le plus marqué là?
Alors moi, c'est une image, mais j'aurais dû vous la donner pour que vous puissiez la montrer à l'écran.
Vous allez tellement bien la décrire que ça va être super.
Ok, je vous décris l'image. Vous voyez la mer, juste à côté de la Chine, et vous voyez une plateforme offshore, mais gigantesque, à perte de vue. Ce ne sont que des panneaux solaires offshore, organisés, donc mis en place par la Chine.
Oh, ça donne envie d'y passer ses vacances.
Ah oui, je pense que ça va plaire aux poissons. En dessous, ça doit être très sympa. Pas de lumière, rien. Vraiment bien pour la biodiversité. Néanmoins, en fait, ça rejoint exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire que, en fait, ça montre la course à l'énergie. Le fait que, en fait, maintenant, c'est plus seulement l'enjeu de l'IA, c'est plus seulement je vais créer cette super IA qui va être différente, qui va être plus performante, un nouveau modèle et tout ça. C'est surtout la course, en fait, et la guerre entre les différents pays pour le développement de l'énergie. Donc, on a vu les États-Unis, d'ailleurs, on en avait parlé la dernière fois, l'investissement des Américains, notamment dans tout ce qui est nucléaire. Mais on voit aussi le développement en Chine massif sur les énergies renouvelables qui, en fait, ont bien compris l'enjeu et qui, se prépare à la suite de l'histoire. Donc cette image, elle m'a frappée vraiment véritablement, d'abord d'un point de vue écologique, parce que je me suis dit que c'était peut-être pas idéal quand même, mais au-delà de ça, quand même, ça montre qu'ils sont prêts, en tout cas, ils se préparent.
Et voilà, deux indiscrets intéressants, effectivement. Et puis il y a aussi, on n'en a pas parlé, le possible report de l'IPO d'OpenAI, c'est une info du New York Times. Voilà. D'après le New York Times, effectivement, les banques conseillent d'OpenAI, lui recommandent de s'introduire en bourse plutôt en 2027 que cette année. Pourquoi? À cause des conditions de marché. Ils craignent un peu que les conditions de marché soient compliquées pour l'intro cette année d'OpenAI, avec en plus la volatilité sur SpaceX qui crée pas mal de perturbations sur l'ensemble de la tech. Il faut reporter l'intro d'OpenAI 2027. C'est urgent d'attendre ou pas, Valentin? Non, mais on se dit, pourquoi les conditions de marché seraient-elles forcément beaucoup plus stables ou pérennes l'an prochain que cette année?
On va dire que aujourd'hui le tuyau des introductions en bourse aux États-Unis est un peu encombré. Hein. On a eu SpaceX, Anthropic probablement. Puis si on rajoute OpenAI, ça fait plus de 200 milliards de dollars levés sur ces entreprises-là. Il y a plein d'autres aussi. Mais si on rajoute, et ça c'est très important, parce que là on parle de liquidité absorbée par le marché, si on rajoute toutes les conditions de ce qu'on appelle de lock-up, les actions qui sont lockées pendant un certain temps pour les insiders de ces entreprises-là, hein, pendant au moins 180 jours ou la première date de publication, eh bien, on rajoute 600 milliards de dollars d'actions qui seront à absorber sur ces différentes entreprises sur l'année. Donc, en fait, vous êtes OpenAI, vous dites, bon, j'ai créé quand même un excès de liquidité à absorber là. J'ai peut-être pas aussi non plus financièrement les mêmes choses à afficher d'un point de vue rentabilité qu'Anthropique. Hein. On voit qu'Anthropique est pas très loin de la rentabilité probablement. Ils ont peut-être un peu perdu une certaine bataille aux États-Unis sur la programmation, hein, le vibe coding. Donc, il y a peut-être un timing un peu plus intéressant à faire peut-être en 2025.
Oui, et puis peut-être pour OpenAI, le besoin de faire une percée technologique importante aussi. Et à ce moment-là, pourquoi pas prévoir l'introduction en bourse. Tout très intéressant. Ah, mais très intéressant, vos indiscrets, Alice, Valentin, Antoine. Mais Tech Stocks, c'est pour passer à l'action là, dès lundi, dès la semaine prochaine. Il faut agir quand on investit dans la tech en bourse. Ceux qui agissent aujourd'hui font les standards de demain. Alors, on passe à l'action, les amis. Antoine.
Alice, c'est une double thématique qui vous intéresse finalement, qui est en amont de l'IA et qui est à l'origine de tout, parce que sinon il n'y a pas d'IA, c'est l'intelligence électrique et la clim.
C'est ça, alors là c'est de circonstance, puisqu'on va parler climatisation,
oui,
effectivement, alors climatisation des data centers, je suis mis avec
c'est
deux.
Pas le tout, c'est que ça chauffe ces machines-là.
Ben, il ne faut pas croire, hein. C'est vrai qu'évidemment... ça chauffe et plus vous en avez, plus ça chauffe. Donc, plus il faut des systèmes de refroidissement. Et là, c'est pas seulement des systèmes de refroidissement. Donc, deux pépites aujourd'hui à vos petits carnets. Vertiv, donc leader mondial des infrastructures critiques dans les data centers. Donc, juste pour bien vous expliquer, alimentation électrique, onduleur, refroidissement liquide, climatisation industrielle et logiciel de supervision. Donc, dans un contexte où vous avez évidemment de plus en plus de data centers, de plus en plus de besoins, évidemment, c'est un peu les pelles et les pioches, si vous voulez, de la création de data centers. Je me suis dit que ça valait le coup d'en parler. Ça fait quand même 122 milliards de capitalisation boursière, donc c'est quand même pas une toute petite société. Mais a priori, elle va continuer à croître et donc je pense que c'est un point d'entrée, malgré la hausse quand même significative depuis le début de l'année, qui reste attractif.
Vertiv, V-E-R-T-I-V, pour ceux qui s'intéressent à New York. Puis vous en avez une deuxième.
Exactement. Comfort System USA. Donc c'est, et en fait, eux, c'est pareil, ils construisent des infrastructures techniques pour les data centers. Donc c'est aussi de la climatisation, des équipements électriques, des réseaux de refroidissement. Et là, en fait, sans elles, bah, il n'y a pas de data center. Donc en fait, pour faire simple, c'est toujours la pelle et la pioche. Et comme on est dans la ruée vers les data centers, je peux vous dire qu'en private equity, par exemple, un des placements qui aujourd'hui semble les plus intéressants pour quelqu'un qui a de l'argent à placer, c'est de se dire, j'achète un terrain, un terrain où il y a de l'eau, un terrain où il y a un nœud internet, fibre, et un terrain où il y a l'électricité majeure, et je construis un data center parce que ça me fait de la rente. Donc, a priori, il y a des chances pour qu'il y ait de plus en plus de data centers. Et donc, on achète les pelles et les pioches. Voilà.
Oui, une pépite, voilà, deux pépites.
Deux.
Vous allez vous faire deux.
Deux
c'est
un.
Bien.
Eh
oui, exactement. À vous, Valentin, une valeur dans laquelle vous croyez, mais alors dur comme fer dans la tech, que vous voudriez nous faire découvrir là.
Bah, il y en a deux qui font la même chose. Donc vous avez le choix. Vous préférez, vous allez choisir laquelle vous préférez, mais elles font exactement la même chose.
Bah, on choisira selon laquelle a le plus joli nom. Alors, allez-y.
TerraWolf et Cypher Digital, anciennement Cypher Mining. Ouais. C'est deux sociétés qui étaient célèbres pour leur activité dans ce qu'on appelait le minage de Bitcoin. Et le Bitcoin, on le sait, était assez et toujours assez énergivore. Et donc, il y a déjà des data centers en place pour la sécurisation et la validation des transactions sur Bitcoin, avec de l'électricité. Et donc, ce data center en place. Donc, qu'est-ce qu'ils offrent aujourd'hui ? Eh bien, ils proposent ces data centers. On enlève les machines qui permettaient de faire du minage de Bitcoin et on remplace ça, alors je grossis le trait, on remplace ça par des puces Nvidia. En réalité, il faut vraiment transformer entièrement le data center, mettre les bons refroidissements, c'est quand même très différent. Et puis après, on propose de louer la puissance de calcul à des hyperscalers. Et c'est ce qui s'est produit, puisque ces deux sociétés ont contractualisé des deals assez importants avec Google, avec Amazon, chacune à peu près entre 9 et 13 milliards de dollars de revenus assurés sur les 10 à 15 prochaines années. Et donc, comment on les valorise, ces sociétés ? Eh bien, au watt disponible, au gigawatt disponible. Et donc, ces sociétés valent entre 3 et 5 dollars du watt. Oui. Alors que normalement, quand on a une activité de data center, on est plutôt valorisé autour de 15 dollars du watt. Donc, il y a une espèce d'inefficience, quelque chose qui n'est pas perçu par le marché. Pourquoi ? Bah, parce qu'elles sont encore perçues comme société crypto, donc extrêmement volatile, cyclique.
Et c'est intéressant parce que vous êtes toujours un passionné de crypto aussi, Valentin. Et là, vous connaissez super bien du coup cet univers. Mais là, vous nous parlez justement de sociétés qui cherchent à muter, quoi, à changer un peu de statut. Ils viennent des cryptos, mais ils veulent conquérir une autre image. C'est un truc assez fréquent en ce moment ou pas ?
Ah oui, tout cet écosystème, en fait, surtout sur la partie mineur Bitcoin, ont bien compris que c'était extrêmement rentable de louer de la puissance de calcul qui est une pénurie, en fait. Et puis, mais tout vient de notre problème qu'on a évoqué avec Alice, l'électricité. Cette pénurie d'énergie, conduit à tout le monde à réfléchir autrement. Et y compris ces sociétés-là qui se disent, bah, pourquoi pas en profiter.
Exactement, il y a plein de mineurs de Bitcoin qui se disent, mais attends, avec l'IA, avec les besoins d'électricité, j'y vais, je me lance dans l'IA et j'oublie le Bitcoin. Antoine.
Ouais, surtout si le cours du Bitcoin continue à baisser, et que le minage est plus rentable pour eux, s'ils se sont fixés une certaine dynamique. Mais il faut toujours se rappeler de comment ont commencé les mineurs de Bitcoin. C'est avec des racks remplis de cartes graphiques Nvidia RTX, celles qui servaient pour les jeux vidéo à l'origine. Mais on voit que la racine reste la même et qu'on va dans la même direction avec les mêmes intervenants et les mêmes matériels généralement. Oui.
Vous aviez tenté à une époque de miner du Bitcoin, Valentin, ou...
Oui.
Ah, c'est vrai.
Dans mon appartement, il faisait un peu chaud du coup. En plein hiver, il faisait l'hiver, cette température-là.
L'hiver, c'est nickel.
L'électricité, c'est un truc de fou. Quand on veut le faire en amateur, c'est... Oui,
c'est... Aujourd'hui, c'est quasi impossible. C'est impossible. Ouais, c'est... On va regarder le potentiel technique de tout ça. En bourse, si on investit dans la bonne valeur, ouais, au mauvais moment, ben, ça ne marche pas. Le timing et l'analyse graphique, ça compte. C'est donc le Trade Tech. Valentin Nico nous rejoint à Bourse Direct. Bonjour Valentin. Valentin, êtes-vous là? Une fois. Deux fois. Eh ben, on l'a pas. On a oublié d'appeler Valentin. En tout cas, lui, il nous a oublié. C'est pas grave. Alors, on va essayer de gagner un peu de temps avant de retrouver Valentin dans un instant pour anticiper la semaine à venir. Ah ben non, il est là. Valentin, oui. Bonjour.
Excusez-moi, on a dû avoir un temps d'écart, mais j'étais bien là.
Bah super, content de vous retrouver, on est bien.
Également.
Pas trop chaud, Valentin?
Si, je crois que tout le monde, hein, tout le monde est dans le même cas. Mais,
bon, bah alors on va voir dans la tech ce qui risque de chauffer ou pas là pour la suite. On va déjà démarrer par le Nasdaq. Vous allez nous dire ce qui relève de la tech tonique, la tech qui garde du potentiel, et puis la tech en toc, quoi, celle qui risque de s'essouffler désormais. Pour vous, le Nasdaq qui souffre un peu cette fin de semaine, là, le Nasdaq, ça devient de la tech en toc ou ça reste de la tech tonique?
Non, c'est plutôt ça. On avait évoqué le canal haussier depuis 2023 et on était surpris qu'on sorte par le haut avec la thématique IA. On trouvait que c'était un peu euphorique comme mouvement et finalement on réintègre ce canal, donc rien de catastrophique, mais voire c'est même plutôt sain. Et donc on s'attend à quelques prises de bénéfices sur les dossiers qui ont été très très portés par cet élan. Et à contrario, certains qui ont été laissés de côté, qui ont quand même un gros potentiel également.
Bon, donc, Valentin, une valeur qui a le vent en poupe là en ce moment du côté de la tech américaine?
Alors, vent en poupe, je sais pas, mais en tout cas, on reste loin des semi-conducteurs et tout ce qui est progiciel aussi lié au semi. Et on va du côté de la robotique, donc la chirurgie robotique avec Intuitive Surgical. Donc, c'est une entreprise qui fait tout simplement des fauteuils et des systèmes d'aide visuelle aux chirurgiens. Et donc, c'est une boîte qui vaut $408 et on estime que 15% de performance pourrait être assez rapide. On est sur un niveau clé. Donc, on jouera plutôt la santé sur la journée.
Bon, et une tech en toc, hein, celle où les signaux techniques sont plutôt négatifs en ce moment. Bon, on peut dire qu'on a le choix, mais est-ce que vous voyez vraiment un titre sur lequel il faut se méfier, peut-être éventuellement?
Alors, un titre, c'était difficile à choisir, mais on est plutôt méfiant sur les semis, donc on va rester sur ça. Et on pense qu'il y aura des prises de bénéfices, notamment sur Texas Instruments, où on a une figure de double top, hein, en formation. Ça vaut $302 et donc on ne serait pas surpris par un retour à 260.
Valentin Nico, depuis Bourse Direct avec nous, dans Tech Stocks, la tech prend le pouvoir. Et Alice, Valentin, la tech vous pose la question. L'IA pose sa question. Elle en a marre, c'est vrai qu'on parle d'elle tout le temps, l'IA, et parfois c'est elle qui prend le micro et qui vous interroge. On inverse les rôles, quoi. Et on lui demande, c'est à Gemini qu'on lui demande de vous poser une question importante. Est-ce que vous êtes prêt à lui répondre à Gemini?
Très prêt.
Prêt. Voici la question que nous propose Gemini aujourd'hui, à vous d'y répondre. Pour vous, quel secteur traditionnel la bourse finira-t-elle par valoriser comme tech du fait d'une adoption précoce de l'IA? Qui se jette à l'eau? Alice.
Moi, je veux bien, parce que ça me rappelle une petite histoire. En fait, moi, vous le savez sans doute, mais j'avais créé une société de gestion qui s'appelait Trecento Asset Management, que j'ai vendue l'année dernière. Le premier fonds que j'avais lancé, c'était la santé dans le monde. Et dans la santé, en fait, grâce à la santé, on a été les premiers en France à trouver justement le fait que l'intelligence artificielle et la robotique allaient bouleverser tous les secteurs de l'économie. Donc, on a lancé un fonds sur l'intelligence artificielle et la robotique. Pourquoi? Parce qu'on a vu arriver dans un des secteurs, des sous-secteurs de la santé, le matériel médical, on a vu arriver les débuts de la miniaturisation, de l'utilisation du big data, de l'automatisation / robotisation. Vous savez, les prothèses, les implants. Vous parliez de Intuitive Surgical, qu'on connaît évidemment très bien, qui est donc un système de robot qui permet d'opérer les patients à distance. Donc ça apporte tout un tas d'avantages. Donc pour moi, pour répondre à votre question, pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est pas juste pour parler de moi, c'est juste pour dire qu'à mon avis, le matériel médical est clairement sous-estimé quant à sa transformation gigantesque actuelle. C'est un secteur qui est en train d'être bouleversé incroyablement. À la fois, ça développe de nouvelles solutions, évidemment, pour faire des opérations, mais aussi, il y a vraiment, c'est en train de gagner en productivité de manière incroyable grâce à l'intelligence artificielle et à la tech. Et donc, pour moi, ça peut devenir ce qu'on appelle un proxy tech dans le jargon des financiers. C'est-à-dire que ça peut se comporter comme l'univers de la tech. Donc, je dirais, le matériel médical pour répondre à la fameuse question.
OK, de Gemini. Voilà. Pour vous, je répète la question que vous pose Gemini. Aujourd'hui, quel secteur traditionnel la bourse finira-t-elle par valoriser comme un secteur tech du fait d'une adoption précoce et avancée de l'IA ? Valentin.
Je partage totalement ce que vient de dire.
Oh non, c'est trop
la
facile.
Santé.
C'est trop
mais
facile.
je vais dire un autre secteur en plus. Je suis totalement en ligne avec ce que dit Alice. Je dirais le secteur de la défense. Alors, c'est peut-être. Je pense que c'est un peu les mêmes vocations, hein, parce qu'on parle de la défense. Mais cette nouvelle défense, la défense du spatial, la défense de la cybersécurité et l'intelligence artificielle, on le voit hein, dans le conflit en Iran. On a mis moins de personnel au sol, on a pu observer et définir des stratégies grâce à l'intelligence artificielle. Alors ça soulève des questions éthiques, mais qu'on retrouvera aussi dans la santé. Et je pense que c'est un secteur qui va se digitaliser, mais d'une façon très très accélérée. Et on n'est pas à l'abri de grandes surprises dans ce secteur-là.
Oui, vous pensez à des acteurs en particulier, des acteurs cotés, là. Vous savez qui sortira le premier, le gros lot ou pas?
C'est une bonne question, je ne sais pas. En tout cas, alors il y a déjà des valeurs technologiques proches de la défense, évidemment, Palantir. Hein, vous connaissez tous Palantir. Oui. Et on peut penser que même dans des sociétés où on fabrique quand même quelque chose de très concret, comme des avions, donc on peut parler de Dassault Aviation, par exemple, et bah dans leurs avions de chasse, ils seront probablement suivis, et c'est déjà un peu une innovation en cours, dessins de drones pilotés par l'intelligence artificielle. Donc il y a déjà aussi, alors c'est pas de la défense, c'est de la défense plutôt dans le sens offensif, mais voilà.
Oui, et dans la défense, on parlera tout à l'heure d'Exail, puisque Safran et Exail confirment des discussions exclusives pour un rapprochement, un rachat d'Exail par Safran à 128,50 € par action. Ceci dit, Safran précise que rien ne garantit que les discussions aboutiront. Hein, mais voilà, elles ont lieu et elles sont exclusives, ces négociations entre les deux groupes. Exail gagne 27% aujourd'hui à la Bourse de Paris. À suivre, on en reparlera dans un instant avec nos experts. La semaine prochaine, on prend un coup d'avance dans Tech Stocks. Qu'est-ce qu'il faudra suivre dans la tech, Valentin?
Alors, je triche, désolé. C'est pas vraiment de la tech, mais c'est pas très loin. C'est dans la chaîne de valeur. On tire le fil sur la chaîne de valeur. On va profiter d'un temps plus calme sur la tech, probablement. Je ne sais pas. En tout cas, pas trop d'activité en termes de nouvelles. On va regarder dans le détail Prysmian. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de construire des capacités de production pour faire de la fibre optique. Et donc, la fibre optique, il faut de la fibre de verre. Et pour faire de la fibre de verre, il faut du préforme de verre. Donc, c'est-à-dire des tubes de verre ultra pur, et c'est devenu une rareté, et donc ils sont en train de construire des capacités de production. Pendant 2 ans, on sait que les prix vont être maintenus, voire être augmentés au vu de la pénurie, et après, en 2029, ils ont les capacités de production qui arrivent là, et on pense que du coup il y a une accélération des volumes à attendre du côté de Prysmian.
Alice, vous surveillerez quoi?
Moi, c'est pas spécifique à la semaine prochaine. C'est plutôt dans les semaines à venir, on va dire, ou dans les mois à venir. Mais je pense qu'il faut inviter tout le monde quand même à observer tout ce qui va se passer dans les infrastructures énergétiques. C'est-à-dire que pendant 2 ans, les investisseurs se sont concentrés sur les modèles, c'est-à-dire investir dans des modèles IA. Et en fait, là, pendant les 5 années à venir, tout le sujet, c'est comment on va pouvoir produire de l'énergie, suffisamment d'énergie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les flux, c'est-à-dire de regarder, en fait, est-ce que les investisseurs vont s'intéresser massivement à toutes ces sociétés dans l'énergie, dans le refroidissement dont on a parlé. Je pense que oui. Donc, voilà, c'est plutôt ça qui me plaît, là.
C'est nos deux gouttes de la tech cette semaine. Alice Labou pour Alice Labou Conseil et Valentin François pour Montpensier Arbevel. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés au cœur de Tech Stocks. Dans un instant, dans la dernière demi-heure de cette séance, on va la vivre ensemble. On vous accompagne sur bfmbourse.com cet article consacré à Exail, dont on parle à l'instant, en hausse de 27%. Exail, les détails hein, sur ces discussions en cours avec Safran pour un rapprochement Safran-Exail. On se retrouve avec Antoine dans quoi? Dans 2 minutes? Oui, pour la dernière demi-heure de la semaine sur les marchés. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.